Ici à l'église depuis début mars et on est vraiment très 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 heureux de revoir plusieurs des visages. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent peut-être en ligne. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Ben, soyez bénis au nom du Seigneur. Je pense que tous ceux d'entre vous qui ont déjà accompagner un enfant au moment du coucher, alors que ce soit en tant que parent, grand-parent, tonton, tata, ami, moniteur en colonie, vous savez que c'est souvent à ce moment-là que les enfants posent des questions. Je ne sais pas si Anouk, elle est où Anouk ? Toi, tu poses des questions, j'imagine, quand tu te couches à ta maman, à ton papa. Ouais, parce que déjà, on n'a pas trop... À papa, d'accord, ouais. Marie, toi, je pense qu'il faudra peut-être encore attendre un petit peu avant d'avoir les questions, mais... Et en tout cas, je ne sais pas si Christophe c'est pareil, mais en tout cas, nous, avec Timothée, quand on couche Timothée, c'est le moment souvent où il y a des questions, qui posent des questions sur plein de choses, et ça ouvre des discussions passionnantes. Et bien, dans la Bible aussi, quand on regarde les questions, les phrases interrogatives, ça peut nous amener à des découvertes et à des découvertes passionnantes. Et ce matin, je vous propose de nous arrêter à trois questions qu'on va afficher derrière. Première question, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Deuxième question, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ? Et troisième question, en quoi cela nous concerne-t-il ? La première question, elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 que nous allons lire. Nous allons lire les versets 1 à 8 qui vont s'afficher derrière moi, mais si vous voulez ouvrir ou allumer votre Bible sur votre téléphone, vous pouvez aussi le prendre, Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en lui, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même » Et là, notre question, « Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Ce passage, on le trouve aussi dans d'autres évangiles. Et ici, vous remarquez que Matthieu... ne donne pas trop de détails, on ne parle pas des amis, on ne parle pas du trou qui est fait sur le toit pour descendre le paralytique. Il s'arrête surtout aux paroles de Jésus. Deux paroles au verset 2 d'abord, « Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Puis au verset 6, « Je te l'ordonne, prends ton brancard, lève-toi et marche. » Et entre ces deux paroles qui s'adressent aux paralysés, se trouve une question, la question sur laquelle on va un peu réfléchir, que Jésus pose à ceux qui pensent qu'il blasphème, qu'il va trop loin, qu'il se prend pour Dieu. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Question pas très évidente. Je ne sais pas qu'en lisant ce texte, si vous l'avez déjà lu dans la Bible, la réponse que vous aimeriez apporter, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile ? On ne va pas essayer d'y répondre tout de suite, mais d'abord réfléchir sur ce que cet épisode montre de la façon dont Jésus perçoit les personnes qui viennent à lui. Dans cette question, qu'est-ce qui est le plus facile, dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche, Jésus parle de la réalité de cet homme malade. Cet homme, il a un corps et il a aussi une âme, un esprit. Il parle de la réalité matérielle, corporelle et de la réalité spirituelle. Il parle de son être extérieur et il parle de son être intérieur. Et ces deux réalités-là sont présentes chez nous tous, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit un enfant, un adulte, un senior, qu'on soit blanc, noir, quelle que soit notre origine, nous avons une vie corporelle et nous avons une vie spirituelle. Et Jésus, en posant cette question, rappelle à tous cette réalité. Mais ce que Jésus souligne, c'est que ces réalités du corps et de l'esprit ne sont pas opposées, mais que toutes les deux ont besoin de guérison. Parce que ces deux réalités, la réalité du corps et la réalité spirituelle, sont marquées, abîmées par le péché. Le péché, qui est ce désir de l'humanité de se passer de Dieu, a perverti ce que Dieu a créé parfaitement bon. Le péché a détruit, le péché tord, le péché pervertit ce qui est bon et qui vient de Dieu. Et souvent, on voit bien le péché comme étant un obstacle entre nous et Dieu, dans la partie spirituelle. Mais le péché, le mal, ne se limite pas à la dimension spirituelle des humains. Alors il faut faire attention aussi, et j'apporte cette précision importante, Jésus ne dit pas ici aux paralytiques « tu as péché, donc tu es malade ». Il n'y a pas Jésus ne fait pas de lien de cause à effet en disant ben voilà, dans ton passé, etc., tu as commis telle faute, donc c'est pour ça, c'est une punition. Non. Mais par contre, ce que ce passage nous montre, c'est que l'être humain n'a pas été créé pour être malade, pour être dans la misère, pour être agressé, victime d'injustice. Toutes ces manifestations du mal sont une conséquence du péché qui est aujourd'hui répandu dans le monde. Et nous vivons dans ce monde, nous aussi, en tant que croyants, en tant que chrétiens, et nous subissons les conséquences de ce péché. Nous sommes soumis aux mêmes conditions que tous les autres. Et le péché porte atteinte au plan de Dieu du départ. Si on revient à la Genèse, le plan de Dieu n'incluait pas le péché. Ce péché nous amoindrit. Il bloque notre relation avec notre Créateur et il nous affecte dans notre corps. Il nous affecte dans notre corps par la maladie, par la violence qu'on peut subir. Il nous touche aussi dans nos situations sociales, par la misère, par l'injustice. Et c'est toute l'horreur du péché qui défigure toutes les dimensions de la création, de la créature parfaite de Dieu. Dans le domaine de notre vie intérieure, spirituelle, mais aussi dans le domaine de notre vie extérieur corporel. On va afficher une photo qui vous rappelle sans doute l'année dernière. Et puis pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, vous savez que hier aussi, une autre église a brûlé à Nantes, à la cathédrale de Nantes. C'était le 15 avril 2019. Ces images ont fait le tour du monde lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a toute la toiture a brûlé. Un chef-d'œuvre d'architecture, un haut lieu spirituel qui part en fumée. Mais cependant, tout n'est pas détruit. On continue, quand vous allez à Paris, vous pouvez voir toujours les murs qui restent en place, mais l'édifice est très très fortement abîmé. Il est dégradé, il est fragilisé. Toutes les structures portantes doivent être consolidées de nouveau. Et si rien n'est fait, la cathédrale Notre-Dame, dans quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, s'effondrera. Et je trouve que c'est une image assez parlante par rapport à la manière dont le péché détruit les vies. Dieu a créé l'être humain comme un chef-d'œuvre, comme une magnifique cathédrale, un joyau précieux. Et le péché, il vient souiller ce chef-d'œuvre. Il vient détruire des parties essentielles à la survie de ce chef-d'œuvre. Il vient fragiliser toutes les structures, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche ». Jésus souligne que toutes les parties de l'être humain ont besoin de guérison. Et Jésus ne se contente pas de faire le diagnostic, mais il apporte une solution. Il est la solution lui-même. Au verset suivant, « Vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. Amen. Amen. Jésus guérit cet homme dans l'ensemble de son être. Il guérit son être intérieur en lui pardonnant ses péchés. Il guérit son corps en le guérissant, en le relevant de sa paralysie. Jésus fait ici une œuvre de restauration. Il vient corriger tout ce que le péché avait perverti, tout ce que le péché avait abîmé. Il vient redonner en quelque sorte une beauté, une perfection au chef-d'œuvre qui avait été créé, au chef-d'œuvre qu'est l'être humain. Il redonne l'humanité qui était celle que Dieu avait prévue à l'origine. Jésus restaure l'être humain dans sa totalité. Il y a un mot un peu compliqué, c'est une approche holistique, c'est-à-dire Jésus ne s'intéresse pas qu'à l'âme, il s'intéresse à la personne dans son ensemble, telle qu'elle a été créée par Dieu. Restauration, c'est aussi le mot qu'on utilise quand il y a un bâtiment à rénover. Voilà, ça, c'est une photo aérienne qui a été prise de la même cathédrale qu'on a vue en flammes. Aujourd'hui, Notre-Dame est un chantier de restauration considérable. Restaurer, c'est réparer les dégâts. C'est reconstruire ce qui a été abîmé, renforcer ce qui a été affaibli. Pour essayer de redonner le même éclat qu'à l'origine. Dans le passage qu'on a lu, par l'action que Jésus a eue envers cet homme, Jésus montre qu'il est venu par amour restaurer l'être humain dans sa globalité. Il est venu restaurer les chefs-d'œuvre en péril que sont les êtres humains. Voilà la première affirmation que l'on retrouve derrière cette question. Je vous propose d'avancer, de regarder la deuxième question qui nous intéresse, qui nous permettra aussi de comprendre le cadre dans lequel Jésus agit. Pourquoi est-ce que Jésus fait cette restauration complète du paralysé? La deuxième question, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Il faut tourner quelques pages pour pouvoir la trouver dans l'évangile de Matthieu également au chapitre 11, dans les versets 2 à 6. Du fond de sa prison, Jean-Baptiste, apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Les disciples de Jean-Baptiste viennent avec une question simple. Est-ce que tu es celui qu'on attend? Sous-entendu, est-ce que tu es le Messie? C'est ça l'espérance. L'espérance du peuple juif, l'espérance que Jean-Baptiste a annoncée dans le désert. Et visiblement, il y avait quelques doutes. C'est une question fermée. Normalement, on répond oui, je le suis, ou non, je ne le suis pas. Mais Jésus a une manière particulière de répondre. En citant des versets de l'Ancien Testament, des versets du prophète Ésaïe, qui parlent des aveugles, des paralysés, des sourds, des lépreux qui sont guéris, de morts qui ressuscitent, de pauvres qui entendent la bonne nouvelle. Pour Jésus, toutes les actions de restauration des hommes, des humains, ce sont des signes qu'il est le Messie. Ce sont les signes que le royaume de Dieu est en train de venir. Jésus montre par là que dans le royaume de Dieu, les effets du péché disparaissent. Que tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a brûlé comme cette cathédrale qui est fragilisée, tout cela n'existera plus, mais sera pleinement restauré. Et ultimement, la mort n'aura plus aucune réalité. C'est le sens de la venue de Jésus, restaurer l'être humain dans sa totalité. C'est le sens de sa mort à la croix. La guérison spirituelle et physique du paralytique, c'est un signe du royaume qui nous montre que dans le plan de Dieu, les humains n'ont pas à être séparés de lui par leurs péchés, qu'ils n'ont pas à subir l'injustice, qu'ils n'ont pas à subir la misère, qu'ils n'ont pas à subir la maladie. Jésus donne un avant-goût, comme ce qu'on appelle aussi les prémices de ce qu'est le royaume de Dieu, que nous pourrons vivre parfaitement au retour de Jésus. La première question nous permet de dire que Jésus vise une restauration complète de l'humain. La deuxième nous permet de dire que cette restauration, c'est un signe du royaume de Dieu qui vient, qui sera parfaitement accompli au retour de Jésus. Et nous reste la dernière question. On va l'afficher. en quoi cela nous concerne-t-il ? Alors celle-là, elle n'est pas dans l'évangile de Matthieu, c'est moi qui la pose. En quoi sommes-nous concernés par ce fait que l'action de Jésus, elle concerne tout l'être humain, qu'elle est holistique et qu'elle pointe vers le royaume ? Ben voilà la réponse que je vous propose. Jésus nous appelle à aimer nos prochains et il nous appelle à être pour eux des témoins de la bonne nouvelle, des témoins de l'évangile, des témoins de son royaume. Et si on regarde le texte de ce matin, pour être des témoins de Jésus qui essayent de suivre la manière dont Jésus a interagi avec les gens qu'il a rencontrés, pour que je puisse avoir ce rôle de témoin, eh bien, ça concerne aussi bien la dimension spirituelle des gens qui m'entourent que la dimension physique, matérielle, corporelle. Pour résumer, il est aussi important d'évangéliser par la parole en se souciant de l'âme que d'être engagé concrètement dans la lutte contre les effets du péché dans les vies de ceux qui nous entourent. Et ça, c'est la vision profondément biblique de la manière dont les chrétiens peuvent aimer et agir dans le monde et mettre en pratique, en reprenant aussi l'image du texte que Jean nous a partagé avec l'image du roc, aimer et agir comme témoin de Jésus. Et cette vision complète a été à l'origine de mouvements absolument extraordinaires de témoignages d'amour et de compassion par des chrétiens. On va afficher quelques photos, des exemples de personnes comme ça qui ont. Alors, on aurait pu remonter à l'Antiquité, lorsque les premiers chrétiens ont ouvert l'hôpital est une invention entre guillemets chrétienne, hein, ouvert à tous, ouvert aux indigents, ouvert à ceux qui ne partagent pas la même foi même que nous. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Ça vous dit quelque chose ? Henri Dunant, oui. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, un Suisse naturalisé français, protestant calviniste, mais profondément marqué par le réveil. Et il avait une foi pleinement évangélique et il a lancé la Croix-Rouge lorsqu'il s'est rendu compte des dégâts que faisait la guerre. Enfin voilà, pour venir en aide aux prisonniers de guerre, venir en aide aux blessés. Puis ensuite, la Croix-Rouge, aujourd'hui, ben voilà, on sait tous que c'est devenu une structure d'aide humanitaire particulièrement grande et efficace. Peut-être que l'approche chrétienne de départ a été diluée, ça c'est sans doute, mais Henri Dunant était motivé par sa foi profonde et une approche où il voulait aussi bien prendre soin de l'âme des personnes que de leur corps. Autre photo, un peu plus proche de nous, hein, Mère Teresa, une Albanaise religieuse qui est partie en Inde prendre soin des lépreux. Là aussi, un témoignage puissant. À l'exemple du Christ. Autre exemple, autre photo. Alors le petit S, là, vous donne quelques indications. Hein. C'est William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Est-ce que vous savez quelle est la devise de l'Armée du Salut ? Soupe, savon, salut. Ouais. Soupe, savon, salut. Le salut est fondamental, mais il y a aussi l'autre aspect. Il faut que les personnes puissent manger à leur faim, puissent retrouver une dignité en se lavant. Dernier exemple, qu'on connaît là aussi plus proche de nous, l'abbé Pierre, aussi un mouvement en direction des personnes qui vivent dans la misère et qui a encore des effets aujourd'hui. Là aussi, la fondation abbé Pierre n'a plus de caractère forcément chrétien ou confessionnel, mais c'est la foi de cet homme qui a été aussi un moteur considérable. Et plus proche de nous encore, si on regarde notre Église, nous avons, par la loi française, deux associations qui organisent toutes nos activités. Il y a l'association Église évangélique de Vendeuvre, et puis il y a l'ASEV, l'association socioculturelle de l'Église évangélique de Vendeuvre. La première, elle s'occupe du culte, de l'école du dimanche, de tout ce qui a lieu, de tout ce qui a trait au culte, et c'est Dominique qui en est le président. Et la seconde, elle s'occupe justement de l'action sociale. De l'action sociale, et c'est Jean-Haut qui préside la Sève. Et je trouve que c'est l'existence de ces deux associations, elle est là aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle nous rappelle ces deux approches que l'on retrouve dans la question de Jésus. Le pardon des péchés, et la prise en compte aussi des besoins humains, matériels, corporels. En tant qu'Église, nous pouvons aller dans ce sens-là, et en tant qu'individu, nous sommes aussi appelés à vivre cette approche-là. Alors, je vais mettre une photo de quelqu'un que vous connaissez. Elle n'est pas là ce matin, mais Huguette, qui est très engagée dans l'association ATD Carmonde, une autre sœur qui, pareil, n'est pas là, comme ça je suis sûr que ça ne les gêne pas, Janine Joffon, qui mène tout un travail à destination des jeunes mamans au Togo, dans la ville de Palimé, pour leur apprendre à les règles d'hygiène et de soins des nouveau-nés. Donc notre engagement associatif, bénévole, peut s'inscrire aussi dans cette vision-là. Et je pense aussi à toutes les professions, parfois par la profession qu'on exerce, toutes les professions qui ont pour but de soigner, d'aider à sortir de la misère. Et je suis pour ma part convaincu que tous les médecins, tous les infirmiers, infirmières, tous les kinés, tous les magistrats, tous les travailleurs sociaux, participe à faire avancer le règne de Dieu en luttant contre les effets du péché. Alors je pense que la majorité, si vous dites ça à un infirmier ou un médecin, je ne suis pas sûr qu'ils soient forcément d'accord. Ils n'en ont sans doute pas conscience, mais pour ceux qui exercent des métiers dans ces domaines-là et qui sont des disciples de Christ, je trouve qu'il y a là une motivation puissante. Accompagner quelqu'un victime atteinte du cancer et qui est en fin de vie, faire la toilette de quelqu'un qui est grabataire, être médecin de famille, à Voinemont par exemple, aider à l'apprentissage du français pour des personnes qui souhaitent s'insérer, lutter pour que les personnes les plus pauvres puissent avoir accès aux soins, aider des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles de la lecture, coordonner la réparation de ponts en République démocratique du Congo. Le sens de toutes ces actions, il change quand on les voit comme des éléments de réparation dans une restauration de la personne dans son ensemble. C'est des choses que l'on peut faire au nom de Jésus. Pas simplement pour faire le bien, pas simplement pour se donner bonne conscience ou dans une approche humaniste, en disant ben, c'est l'homme, il faut sauver, l'homme doit sauver l'homme. Non. Nous pouvons faire toutes ces actions qui peuvent s'inscrire dans un métier, qui peuvent s'inscrire dans un engagement bénévole au sein de l'Église, dans la Sève ou bien dans une association autre, au nom de Jésus. Cette restauration, elle se fait sous la conduite de l'architecte qui gère la restauration d'ensemble, qui est Jésus. Et cette restauration, elle va être partielle. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions et penser que même en tant que chrétien, nous allons pouvoir sauver les gens par ces actions-là. Mais cette restauration, elle sera portée à la perfection au retour de Jésus. Je vais conclure. Dans le premier texte que nous avons lu, lorsque Jésus rencontre ce paralytique, il distingue les besoins de l'âme et les besoins du corps. Il ne les sépare pas et il ne les confond pas. Séparer ces deux besoins, ça pourrait revenir à dire c'est important d'évangéliser, de sauver les gens, mais voilà, qui reste dans la misère, à la rigueur, peu importe. Ce qui compte, c'est le salut de leur âme. Jésus n'est pas dans cette approche-là. Et il ne les confond pas non plus, c'est-à-dire confondre évangélisation et action sociale, ça pourrait notamment penser que en aidant les gens, on va les sauver. C'est quand même deux choses différentes. Jésus ne sépare pas, mais il ne confond pas non plus. Il les distingue, il souligne l'existence de ces deux réalités, de ces deux dimensions. Elles sont toutes les deux indispensables et fondamentales. Elles ont toutes les deux besoin de guérison. Mais il y en a une qui prime, il y en a une qui est malgré tout plus importante que l'autre, c'est le pardon des péchés. Et je pense qu'à la question qu'est-ce qui est le plus dur de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche, je pense que c'est l'interprétation que vous en faites, c'est que c'est tes péchés te sont pardonnés. Parce que pour que les péchés soient pardonnés, il a fallu la mort du Christ à la croix. ça ne coûte rien à celui qui reçoit, mais ça a tout coûté à Jésus qui est mort sur la croix, à Dieu qui a laissé son Fils mourir sur la croix. Marchons sur nos deux pieds, en tant qu'Église, levée, la sève, en tant que personne engagée dans un métier, engagée dans, auprès de nos contemporains, de ceux qui sont proches, mais comme dans nos deux pieds, on a toujours un pied qui est ce qu'on appelle le pied d'appui, c'est celui avec lequel, quand vous faites du foot, vous tirez les pénaltys. Ben, entre ces deux pieds, il y en a aussi un qui est le pied d'appui, qui est l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous invite à la prière. Merci, notre Dieu, parce que dans ton plan parfait, tu as créé l'être humain comme étant un chef-d'œuvre. Et nous sommes tristes de constater à quel point ce chef-d'œuvre a été amoché, a été fragilisé par le péché. Que ce soit auprès de ceux qui nous entourent ou même aussi auprès de nous. Merci parce que tu entreprends une œuvre de reconstruction, une œuvre de restauration. Cette œuvre, elle passe par la foi en toi pour être pleinement restaurée. Et tu nous as montré le chemin dans la manière dont tu as agi envers les personnes qui venaient à toi. Tu les considérais comme des personnes dans leur totalité. Et tu t'es intéressé à tous les aspects de leur vie, comme tu t'intéresses à tous les aspects de notre vie, à chacun d'entre nous. Merci parce que tu agis dans nos cœurs pour nous rendre sensibles aux besoins des autres. Aide-nous à être attentifs à ce qui nous entoure. Aide-nous à les voir comme des personnes, là aussi, entières, avec tous leurs besoins. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton royaume. Aide-nous à avancer sur nos deux jambes en prenant soin de leur âme et en prenant soin de leurs besoins physiques. Seigneur, c'est toi qui est à l'œuvre dans le monde. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons prendre exemple sur toi. Merci aussi pour cette espérance que cette restauration, nous pouvons avoir la certitude absolue qu'elle sera parfaitement accomplie pour nous et pour tous ceux qui ont choisi de te suivre, pour tous ceux qui font partie de ton royaume. Cette restauration, oui, sera parfaitement accompli lors de ton retour. Merci pour cette promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer chaque jour. Amen.